Alors, si vous êtes comme moi, peut-être vous aussi, vous oubliez parfois la grandeur, la puissance et la splendeur de notre Dieu. Notre quotidien banal et ordinaire peut inciter en nous une attitude banale et ordinaire qui peut, par conséquent, ouais, je crois que c'est bon. C'est mal branché là. Un petit problème technique, mais voilà. Mais comme j'ai dit, notre attitude un peu banale et ordinaire peut par conséquent entraîner une ignorance des réalités surnaturelles. Et si nous ne faisons pas attention, on finit par déplacer le Dieu créateur du monde et même le remplacer par nos préoccupations quotidiennes. Nous prions, mais nous ne nous attendons pas à ce que Dieu puisse répondre, par exemple. Et nous finissons par avoir l'image d'un Dieu faible, un Dieu petit. Ce n'est plus, en fait, le Dieu de la Bible. C'est pourquoi nous avons besoin d'ouvrir grand les yeux pour observer la gloire et la grandeur de Dieu et de ses œuvres dans le monde. Est-ce que notre Dieu est trop petit? Alors récemment, on m'a raconté une histoire qui concerne l'Église persécutée en Corée du Nord. Quelques soldats communistes ont fouillé la maison d'un homme soupçonné d'être chrétien. Ils ont saccagé sa maison pour chercher des Bibles ou d'autres traces tangibles de sa foi. S'ils trouvaient une Bible, par exemple, ou d'autres traces de sa foi, ça impliquerait la mort pour cet homme. Mais en n'en trouvant rien, les soldats sont partis. Et dès qu'ils sont partis, ce frère coréen est allé directement vers l'endroit où il avait caché sa Bible, juste pour vérifier qu'elle était toujours là. Mais à sa grande surprise, elle n'était plus là. Plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. C'était un des soldats qui avait sa Bible entre les mains. Il lui dit tout simplement, il faut mieux la cacher la prochaine fois. C'était un chrétien. Vous voyez, ce jour-là, cet homme a appris directement que Dieu est grand, que Dieu fait des grandes choses. D'une manière similaire, certains d'entre vous avaient vu la grandeur de Dieu aussi, quand il a transformé votre vie à 180 degrés. D'autres personnes présentes ici ont reçu des réponses miraculeuses à leurs prières. On a tous vu la grandeur de Dieu. Nous avons juste besoin qu'on nous rappelle que Dieu est grand parfois, n'est-ce pas? Dieu est grand et nous pouvons nous attendre à ce qu'un grand Dieu fasse des grandes choses. Dans quelques instants, nous allons lire le psaume 19. Ce texte est divisé en deux parties. Les versets 1 à 7 parlent de la révélation de Dieu dans la nature et les versets 8 jusqu'à la fin raconte les mérites de la révélation de Dieu dans sa parole. Dieu est donc loué en raison de sa révélation. Mais le but de ce texte n'est pas juste de parler de la révélation de Dieu dans la nature et dans la parole. L'idée principale de ce texte est la suivante. Dieu est grand, et un grand Dieu fera des grandes choses. Alors on va lire maintenant le psaume 19. C'est un psaume de David qui dit « Au chef de cœur, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe de sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies et sont toutes justes. Plus précieux que l'or, même que beaucoup d'or fin. Plus douce que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti, pour que les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ces fautes involontaires? Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux, qui ne dominent pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de péchés graves. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, ta loi, les ordres, le commandement que tu nous donnes. Nous te remercions pour cette parole, Seigneur. Je prie afin que tu parles à chaque cœur, chaque esprit ce soir qui est présent ici. Aide-nous, Seigneur, de comprendre le sens de ce texte et de mettre en pratique ta parole pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la première chose à remarquer dans ce texte, c'est que Dieu est plus grand que l'univers. Dieu est plus grand que l'univers. Alors, on ne sait pas à quel moment le roi David a écrit ces lignes. Peut-être c'était quand il était un jeune berger qui passait des nuits d'or avec son troupeau. Il regardait les cieux remplis d'étoiles, on ne sait pas. Ou bien on peut imaginer David sur le balcon de son palais en train d'admirer la terre et le ciel immense devant lui. Mais en tout cas, David a constaté que la création racontait quelque chose au-delà d'elle-même. Ce tableau parle d'une voix forte pour déclarer la gloire de l'artiste qui l'a créé, la gloire d'un grand Dieu. Ce psaume de David corrige une certaine mauvaise théologie. Ça corrige l'idée selon laquelle la création raconte sa propre gloire. Ça corrige un problème qui était courant dans le monde antique. Parmi les peuples et les nations autour d'Israël, les gens louaient la création en ignorant en fait le Créateur. Je pense à cela, que cela explique pourquoi David parle tellement du soleil, par exemple dans les versets 5 et 7 de ce texte. Dans le monde antique, il était fréquent que les gens louent le soleil, les astres, la nature. Les étoiles servaient de personnification des dieux. Vous voyez, en Égypte, par exemple, le dieu Ra était représenté par le soleil. Chaque jour, il prenait son char pour traverser les cieux. Pour les Cananiens, les gens, le peuple autour d'Israël, Baal était le dieu du ciel. Il était associé avec le soleil, avec le temps, avec la pluie et tout ce qui vient du haut. Plus tard, les Grecs aussi ont mis beaucoup d'accent sur les dieux des cieux, comme Apollon, par exemple, le dieu du soleil, de la lumière. Mais Dieu, le vrai, a averti son peuple contre l'idolâtrie, c'est-à-dire contre le fait d'associer Dieu avec la création, de louer la création par conséquent. En Deutéronome, chapitre 4, verset 19, Dieu dit à son peuple de ne pas lever les yeux vers le ciel pour se prosterner devant le soleil, la lune, les étoiles, comme le faisaient les païens. C'est sûr que David s'est souvenu des commandements de Dieu. C'est sûr qu'il s'est souvenu du péché du peuple d'Israël qui s'est prosterné devant le veau d'or en Exode, qui a été frappé par conséquent par la main de Dieu. Les gens du monde antique regardaient les cieux, mais ils s'arrêtaient là, en fait. Ils ne regardaient pas assez loin pour voir que la gloire du soleil n'était qu'une ombre de la gloire de Dieu créateur. Vous voyez, ils limitaient leur Dieu à un objet fini et petit. C'était ça le problème. Et ça, ce n'est pas très différent de ce que font les gens aujourd'hui. Je ne pense pas juste au néopaganisme ou au Wicca ou à d'autres religions qui rendent un culte à la nature. Je pense également au scientisme, l'idée selon laquelle le monde physique est suprême et digne de louange par le culte de la science. Je pense à l'écologisme où les gens et les gens qui sont tellement attachés à la planète, qui est leur Dieu, qu'ils cherchent avec urgence, voire avec fanatisme, à sauver leur propre Dieu. Vous voyez ? Je pense à toutes ces fois où nous remplaçons la vérité de Dieu par un mensonge et où nous adorons et servons la créature au lieu du Créateur, comme le dit Romains chapitre 1, verset 25. Et même l'obsession qui existe autour de la sexualité dans notre société montre où se trouve l'objet de notre louange. Nous risquons de louer la création quand nous mettons notre confiance dans les œuvres de nos propres mains et dans nos propres projets, dans la nature. Mais selon le psaume 19, la nature est trop petite pour être notre Dieu. La nature, les êtres humains inclus, est trop limitée. Elle est trop facilement manipulée. Le psaume 19 affirme la beauté de la nature et les qualités nourrissantes du soleil, mais tout en nous rappelant qu'il y a mieux. Le soleil est radieux et glorieux, mais il y a mieux. Il y a plus grand encore. Imaginez que vous vouliez visiter la plage, la vraie plage océanique de l'Atlantique. Vous voulez voir de vos propres yeux les vastes étendues de l'océan. Alors vous préparez tout ce qu'il faut pour y aller, vous montez dans la voiture et vous partez. Mais 5 minutes plus tard, en voyant le Rhône, vous vous arrêtez au bord du fleuve et vous vous installez pour profiter de cette belle étendue d'eau. Parce qu'en fin de compte, quelle est la différence? Il y a de l'eau, il y a une petite plage en quelque sorte, il y a des petites vagues et des courants, il y a du soleil. Finalement, pourquoi gaspiller 5 heures à traverser le pays juste pour voir de l'eau, des vagues et du soleil, n'est-ce pas? Mais ça c'est ridicule. Le Rhône n'a rien à voir avec l'Atlantique. La seule similarité, c'est que les deux sont mouillés. Et d'une manière similaire, le problème de l'idolâtrie constatée par David dans ce psaume, c'est que cette idolâtrie nous rend aveugles à des meilleures réalités. Nous cherchons les vastes étendues de la gloire de Dieu, mais en voyant la gloire de la création, de la nature, nous renonçons trop facilement au but qui était devant nous. Nous, les êtres humains, recherchons une réalité divine, une beauté infinie, un sens profond à la vie, un amour éternel, mais on se contente trop facilement d'une réponse incomplète à nos besoins, vous voyez? On recherche la divinité en nous-mêmes, on recherche la beauté dans la nature, tout en ignorant le Créateur. On essaie de se créer un sens pour soi-même, sans égard pour Dieu. On cherche l'amour dans des rapports charnels, etc. Nous sommes tous coupables de nous contenter de la petite gloire du soleil à la place de Dieu. Mais ce psaume corrige cette paresse spirituelle. Ces versets nous apprennent que Dieu est plus grand que l'univers. L'univers est comme le gars qui sonne de la trompette avant que le roi entre dans la pièce, tout simplement. L'univers annonce la gloire de notre Dieu. Et quand le roi entre, il nous donne quelque chose de magnifique, selon ce texte, à savoir sa loi, ses commandements, le témoignage de qui il est. Donc la deuxième partie de ce texte découle logiquement de la première, en nous apprenant ce que produit la grandeur de la gloire de Dieu. Et un Dieu qui est plus grand que son univers mérite d'être écouté. comme les rayons du soleil, la parole de Dieu nous nourrit, nous fait du bien. Vous avez peut-être remarqué le langage des versets 8 à 11 qui fait référence à la subsistance. La loi de Dieu restaure l'âme. Ça réjouit le cœur. Ça éclaire les yeux. La parole est comme le miel qui nous donne de la force. En fait, la loi, les commandements, les ordonnances font référence à la révélation de Dieu à son peuple. Ça représente toutes les Écritures jusqu'à l'époque où David a écrit ce psaume. Et toute cette révélation spéciale de Dieu dans les Écritures possède une qualité nourrissante. Elle nous donne la vie. Elle réveille nos sens spirituels. Si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, un de mes films préférés, vous vous souvenez peut-être de la scène où le roi des hommes est sous l'enchantement d'un sorcier dans le deuxième film. Il reste toute la journée courbé sur son trône, il ne bouge pas, il ne dit que quelques mots qui ne sortent que difficilement de sa bouche. Sa peau est ridée, il a l'air d'être beaucoup plus âgé qu'en réalité. Comme une marionnette, toutes ses actions sont sous le contrôle du sorcier. Mais à un moment donné, Gandalf, le bon mage, arrive et il parle au roi, n'est-ce pas ? Il proclame la vérité en confrontant le mal qui emprisonne le roi. Il prononce des mots saints qui cassent la puissance de sortilège. Et soudainement, il y a un changement visible chez le roi. Il retrouve sa force. Il retrouve la capacité de s'exprimer. Son esprit devient lucide et on a l'impression qu'il rajeunit de 50 ans. D'une manière similaire, il y a un changement que Dieu opère en ceux qui sont confrontés à la parole de Dieu. La loi de l'Éternel restaure l'âme. Par sa parole, le grand Dieu de l'univers chasse les ténèbres de notre âme. Je vais juste rester comme ça jusqu'à la fin là. Et ça marche? Ça marche ou pas? Ouais, oh non, oui. Ça marche, ok. J'étais où là, en train de parler de la loi, ah oui, la loi de Dieu qui restaure l'âme. Sa parole, par sa parole, le grand Dieu de l'univers chasse les ténèbres de notre âme en restaurant notre force spirituelle, vous voyez. Et on voit les choses différemment finalement. À travers les versets 8 à 11, nous voyons l'importance d'écouter Dieu. Encore une fois, nous voyons que les idoles que nous faisons de la création n'ont rien à nous dire, sinon le message suivant. Écoutez le Créateur. Ironiquement, le silence des cieux, du soleil et des étoiles est une proclamation. Vous voyez? Le silence des cieux, du soleil et des étoiles est une proclamation. Un appel à écouter la parole de Dieu. Leur silence est une déclaration qu'il y a un Dieu plus fort qu'eux. Tous ces objets muets déclarent et proclament la présence d'une réalité plus forte, un Dieu plus grand, vous voyez? Il est évident que le psalmiste a un enthousiasme prononcé pour la loi de Dieu. Je me demande si c'est exagéré un petit peu. Parce que pour moi, je n'aborde pas toujours la parole de Dieu avec ce même enthousiasme. Parfois, oui. Mais d'autres fois, la parole est dure. Elle nous donne un éclairage sur notre péché. Elle nous demande de sortir de notre bulle, d'aller vers les autres, n'est-ce pas? Elle nous fait mal à l'aise par rapport à notre idolâtrie. Elle confronte notre égoïsme. Et notre nature pécheresse n'aime pas cette confrontation. Mais la parole de Dieu ne nous fait pas mal pour rien, sans raison, vous voyez? La Bible ne parle jamais du péché sans parler aussi de la grâce de Dieu. C'est comme la différence entre la piqûre d'une abeille, qui fait mal et rien de plus, et la piqûre d'une aiguille de vaccin, qui fait mal mais pour sauver la vie, vous voyez? Personne ne veut être piqué par une abeille volontairement. Mais nous sommes tous prêts à souffrir un peu chez le médecin si ça veut dire que nous n'allons pas mourir d'une maladie monstrueuse et choquante, n'est-ce pas? La révélation de Dieu nous pique avec la réalité de nos péchés et nous guérit soigneusement en nous donnant la grâce de Dieu. C'est pourquoi David confesse ses péchés dans les versets 12 à 15, en se réjouissant de la rédemption de Dieu, c'est-à-dire du salut. Le Dieu qui est plus grand que l'univers est aussi plus grand que nos péchés. Encore et encore, je le répète, ce texte nous pointe vers un Dieu glorieux, un Dieu qui est grand à tous égards. Mais quand on réfléchit à la grandeur de la gloire de Dieu, quelle réaction devrait être suscitée en nous? Qu'implique la révélation de Dieu dans la nature et dans sa parole? Quelles sont les implications de la grandeur de Dieu pour nous? En fait, ça implique que nous devons nous tenir dans la crainte de la gloire de Dieu en nous rappelant que Dieu est plus grand que tout, que tout. Il est plus grand que nos idoles. Il est plus grand que tous les plaisirs du monde que nous louons à sa place. Il est plus grand que l'idole de soi. Et il peut faire plus pour nous que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Et donc, en observant la révélation de Dieu dans la beauté de la nature et dans la parole cette semaine, je vous encourage à vous rappeler que Dieu est plus grand que nous et que nos idoles. Mais Dieu est aussi plus grand que nos attentes. Pour ceux qui font face à de grandes difficultés, qui ont besoin d'un grand soutien dans la vie, ce texte nous rappelle qu'il y a une grande solution qui se trouve dans un Dieu qui est plus grand que toutes nos attentes. Éphésiens chapitre 3, verset 20 nous rappelle que Jésus-Christ, par qui le monde a été créé, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et donc, en observant la révélation de Dieu dans la création, dans la nature, dans la parole cette semaine, je vous encourage à vous rappeler que Dieu est plus grand que toutes nos difficultés. Et en plus, Dieu est plus grand que notre culpabilité et que notre péché. Nous sommes tous coupables de péchés divers et variés, n'est-ce pas? Nous avons tous des fautes cachées, mais nous ne devons jamais penser que nos fautes sont trop graves pour être pardonnées par Jésus, le Rédempteur, le Rocher, qui est mort à notre place afin de nous restaurer. Oui, nous sommes tous condamnés par nos fautes, par nos actes de rébellion contre la gloire et la majesté de Dieu, mais Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous condamner, en plus de la condamnation qui est déjà la nôtre. Selon Jean chapitre 3, verset 17, Jésus est venu dans le monde pour nous sauver si nous confessons nos péchés et mettons notre foi en lui. Et donc, encore une fois, en observant la révélation de Dieu dans la beauté de la nature, dans la parole cette semaine, je vous encourage à vous rappeler que Dieu est plus grand que les péchés qui vous condamnent. Prenez du temps cette semaine pour contempler la création. J'espère que cela vous incitera à déclarer aussi la gloire, la grandeur de Dieu. J'espère que cela vous incitera à vous tourner vers sa parole, humblement, afin de recevoir votre nourriture de la part de Dieu. J'espère également que cela nous rappellera à tous que nous servons un grand Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, comme le font les cieux, nous aussi nous voudrions raconter ta gloire, ta grandeur. Seigneur, nous confessons que nous faisons des idoles de la création au lieu d'écouter sa voix, ta voix. Montre à nous, Seigneur, ta grandeur. Et aide-nous de mettre notre confiance en toi, le grand Dieu, au nom de Jésus. Amen.